Qui n'a jamais rêvé d'évoluer dans un monde virtuel ? Le campus de Beaulieu abrite une curieuse structure, Immersia. Cette plateforme de réalité virtuelle dédiée à la recherche est développée par l'IRISA, l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, et l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Elle a ouvert ses portes au Labomatique pour une expérience tout à fait étonnante. Florian Nouvial, ingénieur de recherche au sein de la plateforme, nous en parle.
Alors c'est une plateforme qui fait 9,60 m de long et 2 m de haut, donc c'est avec 4 écrans, et qui permet à un ou plusieurs utilisateurs d'être immergés dans un environnement en 3D avec un système de lunettes stéréoscopiques.
Donc c'est une sorte c'est de la réalité virtuelle en fait.
C'est ça, c'est de la réalité virtuelle.
Et donc quel type de technologie utilisez-vous au sein de cette plateforme ?
Alors sur la plateforme principale, on utilise un total de 13 projecteurs avec plusieurs systèmes de machines derrière, donc ça peut aller jusqu'à 7 machines pour calculer les images. Et on a aussi un système de son, donc avec 10 enceintes et 2 caissons de basse, et un système de tracking donc qui permet de suivre les mouvements d'utilisateur, donc la position de sa tête, de ses mains et d'autres choses éventuellement. On peut utiliser des Wiimotes, ce genre de périphérique.
Et pour la vision stéréoscopique, comment ça fonctionne en fait ?
Alors en fait, on envoie à un pas de temps régulier, en fait, un temps donné, on va envoyer une image, et au temps suivant, on va envoyer une autre image. Donc ces deux images vont être pour la première l'image pour l'œil droit et pour la deuxième l'image pour l'œil gauche. Et donc l'utilisateur porte des lunettes qui vont masquer sur le même temps l'œil droit ou l'œil gauche. Donc ce qui permet à l'utilisateur de voir la bonne image, et ça va assez vite, ce qui fait que l'utilisateur ne se rend pas compte qu'on masque l'une puis l'autre. Donc ça marche pareil qu'au cinéma.
Cette plateforme est quand même assez imposante. Quelles sont les utilisations, quelles sont les applications qu'on peut faire avec ce genre de plateforme ?
Alors les principales applications qu'on fait avec, c'est dans le domaine de la recherche. Donc ça peut être étudier comment quelqu'un va se comporter dans ce genre d'environnement. Ça peut être de la marche avec un humanoïde virtuel par exemple, savoir comment est-ce qu'ils vont essayer de l'éviter. Ça peut être apprendre à réaliser des procédures. Donc on a un exemple où on doit collaborer avec un utilisateur virtuel, donc c'est un humain virtuel, pour changer une pièce sur une machine. Ça peut être aussi étudier comment les gens peuvent collaborer, donc avec plusieurs systèmes du même genre immersif, collaborer pour aller étudier des données. Donc leur afficher les données dans cet espace qui est assez grand et leur permettre de donner des points de repère aux autres utilisateurs qui travaillent avec eux.
Avez-vous quelques exemples à donner sur des projets sur lesquels vous avez travaillé par exemple ?
Oui, donc je travaille actuellement sur le projet ANR Corvette, donc financé par l'ANR, dans lequel on apprend différentes procédures. On en a deux. Il y en a une première qui est apprendre une procédure de tir avec un véhicule militaire, et la seconde qui est changer le moule d'une machine de plasturgie, donc dans une usine.
Donc du coup, vous modélisez en fait, par exemple pour le militaire, vous modélisez un véhicule et vous apprenez à des militaires à se servir de ce véhicule. Comment ça se passe en fait ?
Il y a une première partie qui est la modélisation, donc effectivement donc du véhicule ou de l'usine et des machines. Et une seconde partie qui va être aussi de permettre qu'on puisse manipuler ces modélisations. Donc l'utilisateur va pouvoir, par exemple, ouvrir la porte ou prendre un objet. Et donc voilà.
Et donc pour la détection de mouvement, vous utilisez des capteurs en fait ? On met des capteurs sur les sujets ?
C'est ça, la plupart du temps on utilise des capteurs. En fait, c'est pas tout à fait des capteurs, c'est des marqueurs réfléchissants. Et il y a des caméras infrarouges tout autour de la salle qui émettent donc de la lumière infrarouge qui réfléchit très fortement par ces capteurs-là. Donc les caméras sont capables de repérer où sont les capteurs, et en travaillant ensemble, toutes ces caméras-là sont capables de nous dire où est-ce qu'elles sont situées précisément dans notre salle.
Et entre la stéréoscopie, les détecteurs de mouvement et tout simplement l'affichage, il n'y a pas problème de contraintes pour synchroniser tout ce matériel ?
Alors s'il y a des problèmes de contraintes, la plupart du temps on essaie de faire que ces différents matériels travaillent sur des fréquences qui sont indépendantes, mais par exemple pour l'affichage on a besoin que l'ordinateur calcule les images à une certaine vitesse et qu'à cette même vitesse les projecteurs reçoivent les images et qu'à cette même vitesse les lunettes affichent soit l'image de droite soit l'image de gauche. Et donc c'est un grand problème de synchronisation. Donc comme je disais, il y a 13 projecteurs qui doivent donc en même temps changer leurs images, mais il y a aussi pour chaque machine derrière, donc les cartes 3D, qui doivent en même temps afficher la bonne image. Donc il y a des problèmes de synchronisation de ce côté-là.
Quel est votre rôle en fait dans la plateforme Immersia ?
Alors c'est assez varié, ça peut être ça commence par le maintien en fonctionnement de la plateforme évidemment. Ça va être l'accueil de différents partenaires qui peuvent être industriels ou académiques pour faire des expériences par exemple. Donc ça va être ce genre de choses-là et aussi une veille technologique vis-à-vis des nouvelles technologies qui émergent assez régulièrement et ça va d'ailleurs très vite aujourd'hui de ce côté-là.
Oui, justement, pouvez-vous nous parler de l'essor de la réalité virtuelle ? Est-ce que ça se développe ? Parce que finalement, on n'en voit pas forcément beaucoup des plateformes de réalité virtuelle, mais est-ce qu'il y en a beaucoup en France ou dans le monde ?
Alors, des plateformes de réalité virtuelle comme celle qu'on a là, on a une des plus grandes d'Europe. Il y en a d'autres à échelle plus petite, en général de 2 mètres sur 2 mètres à peu près. Mais après, la réalité virtuelle, c'est pas uniquement des plateformes avec des murs. Ça peut aussi être simplement un affichage 3D avec des lunettes comme on a chez soi avec une télévision. Ça peut être également avec ce qu'on appelle un HMD, donc c'est un casque avec des affichages LCD. Qui permet de voir en 3D et c'est ce genre de périphérique-là qui se démocratise beaucoup en ce moment au niveau du grand public.
Par exemple, au dernier E3 a été présenté l'Oculus Rift. Est-ce que vous travaillez sur ce genre d'objet ? Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est l'Oculus Rift ?
Alors l'Oculus Rift, c'est simplement comme si on portait sur les lunettes l'écran d'affichage. Pour les deux yeux, donc un écran pour chaque œil avec une lentille qui permet d'agrandir un peu l'image. Donc en fait, c'est comme si on portait sa télé devant nos yeux en permanence. Et donc l'Oculus Rift, oui, c'est un outil qu'on commence à utiliser évidemment, puisqu'il a l'intérêt d'être assez léger et de prix assez abordable.
Et quels sont vos prochains projets au sein d'Immersia ? Si vous avez le droit d'en parler.
Je pense que dans l'avenir, on va continuer à travailler de toute façon sur l'immersion des utilisateurs dans l'environnement immersif. Travailler aussi un peu plus, donc comme on le voit aujourd'hui, avec l'apport du son dans ce genre d'environnement-là. Et on a différents projets qui se mettent en place régulièrement, tout simplement pour voir comment les utilisateurs réagissent quand ils sont immergés dans un univers ou comment ils vont collaborer avec d'autres utilisateurs qui seront dans d'autres systèmes d'immersion équivalents ou légèrement différents.
Pensez-vous qu'un jour, notre environnement sera constitué de ce genre de plateforme ou je ne sais pas, par exemple, quand on parle de la maison du futur, pensez-vous que plus tard on interagira avec notre environnement de cette façon ?
Je pense que c'est tout à fait possible avec du matériel assez léger. Donc on parlait tout à l'heure de l'Oculus Rift. Ce genre de technologie, plus ça ira et plus elles seront légères et moins contraignantes. Et je pense qu'il sera possible de voir, comme on le voit avec les Google Glass actuellement, un moyen d'interagir avec l'environnement réel en ajoutant des informations virtuelles par-dessus.
C'était Disclosure avec Leave It Up. Il m'a été possible d'essayer une démo d'application de la plateforme développée dans le cadre de la journée Science et Musique au Diapason. Le but était d'interagir avec des objets virtuels et de les utiliser comme instruments de musique. Et je dis bien essayer. Muni de lunettes stéréoscopiques et de Wiimote, je me suis donc aventuré sur la plateforme. Ce que vous venez d'entendre est une composition faite par un individu interagissant avec Immersia. En fait, suivant notre position, on évoluait dans deux environnements différents. L'un était une usine avec des machines qu'on pouvait activer grâce au Wiimote et en sortir des sons. L'autre était une cathédrale, où on pouvait manier une grue. Chose étonnante, l'acoustique était différente suivant les environnements. On retrouvait ainsi l'écho particulier d'une cathédrale et c'est cette spatialisation du son qui nous intéresse maintenant dans le Labomatique. Laurent Simon, post-doctorant à l'INRIA, a travaillé justement sur la spatialisation du son et nous en parle plus en détail.
Dans cette démo, en fait, on a une salle de réalité virtuelle et on spatialise des sons. Parce que dans une salle de réalité virtuelle, à Immersia en l'occurrence, à la base, on a un rendu d'image et on a travaillé sur le rendu sonore qui va avec. Parce que plus on arrive à simuler de sens, plus on se rapproche d'une immersion totale. Donc du coup, plutôt que d'avoir un rendu sonore basique comme de la stéréo, des choses comme ça, on utilise un système qui a 10 enceintes et on va pouvoir placer les sons tout autour du sujet ou de la zone même d'utilisation de réalité virtuelle à l'aide de ce qu'on appelle du panning d'intensité. En fait, quand on fait du panning d'intensité, on va envoyer un son à deux enceintes, mais pas avec la même intensité. Si le son est beaucoup plus fort dans une enceinte que dans l'autre, on va avoir l'impression que le son vient principalement de cette enceinte. Et plus le son est similaire entre les deux enceintes, plus le son va être perçu au milieu. Le panning d'intensité, c'est ce qui est utilisé typiquement beaucoup dans le cinéma, dans les home cinéma, ou dans la plupart des systèmes de spatialisation qu'on peut trouver pour le grand public. En plus de ça, on rajoute un effet de salle pour pouvoir simuler différentes acoustiques. Parce que quand on est dans un bureau et qu'on parle, ça ne sonne pas pareil que si on se retrouve dans une cathédrale. Quand on est dans une cathédrale, quand on parle, ça va sonner pendant très longtemps. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle l'acoustique des salles et la réponse impulsionnelle des salles, l'effet de salle. Et l'effet de salle, en fait, on peut le décomposer en plusieurs parties. Il y a d'abord le son direct. Le son direct, c'est le son qui vient d'une source sonore jusqu'à nos oreilles. Il va y avoir ce qu'on appelle les premières réflexions. Alors ça va être les premières fois où le son va se réfléchir sur des parois, ça peut être sur le sol, sur des murs, sur des vitres. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le champ diffus. Le champ diffus, c'est ce qu'on va vraiment entendre. Quand on est dans une cathédrale, si on claque dans les doigts, on va entendre le son qui va rester pendant un certain temps. Et ce certain temps, c'est ce qu'on appelle le son diffus en général. Et dans le son diffus, le son est censé venir de toutes les directions en même temps. Alors que dans les premières réflexions, le son, il vient principalement de l'endroit d'où vient la source sonore. Pas exactement de cet endroit-là, mais en gros de cette direction-là. Et donc du coup, dans Immersia, pour pouvoir simuler ça, on a le son direct qui va être envoyé à travers un processeur qui va faire que le son va être joué que par deux enceintes, ce son direct, et donc le son va être relativement bien localisé. On va rajouter des premières réflexions qui vont être envoyées sur plusieurs enceintes. Elles peuvent être envoyées par exemple sur quatre enceintes, mais les quatre enceintes seront quatre enceintes qui sont dans la direction de la source principale. Et on a le son diffus qui, lui, va être joué sur toutes les enceintes, de façon à avoir une impression d'enveloppement partout.
Justement, dans la démo, on a une impression, il y a deux univers différents, un dans une salle et l'autre dans une cathédrale. Et donc, on a cette différence de son. Donc, comment ça se passe et quel est le lien avec les capteurs? Comment vous avez réussi à retranscrire cet effet de cathédrale?
Alors, en pratique, ce qui se passe, c'est que l'acoustique qui va être sélectionnée dépend de la position du sujet dans l'espace Immersia. Donc, quand il est dans la partie gauche d'Immersia, on simule une usine, mais en pratique avec un temps de réverbération, qui est le temps pendant lequel on entend le son, qui est plutôt court. Et quand il se déplace de l'autre côté, dans l'autre moitié d'Immersia, on simule une acoustique de cathédrale. Alors l'acoustique, là en l'occurrence la simulation est très basique, mais on peut très bien imaginer qu'avec un système comme ça, on puisse simuler des vraies acoustiques de salles, de vraies salles, à l'aide d'outils qui sont mis au point exprès pour ça. Et ça peut être utilisé par exemple pour la modélisation de salles. Donc si on veut fabriquer une salle de concert, on peut modéliser cette salle de concert et en général, on a plusieurs options. On peut décider d'avoir par exemple des panneaux de bois sur les côtés ou alors des rideaux. Et on aimerait bien entendre la différence entre les deux et voir aussi le rendu graphique, le rendu visuel. Donc du coup, on peut utiliser une salle comme Immersia qui va permettre de se rendre compte un peu de la grandeur de la salle, de l'impression visuelle et sonore qu'il peut y avoir et de comparer les différentes acoustiques pour se dire ça va sonner mieux si j'utilise les rideaux ou je vais préférer le rendu sonore quand j'utilise les panneaux de bois.
Du coup, quelle technologie vous utilisez pour recréer ces environnements sonores et est-ce qu'il y a des contraintes justement pour recréer des environnements de ce type ?
Alors, en l'occurrence, ici, pour le moment, on utilise du panning d'intensité. C'est ce qu'on appelle du VBAP, Vector Based Amplitude Panning. Ce n'est pas exactement la même chose. VBAP, c'est une version particulière du panning d'intensité qui s'assure un niveau homogène, quelle que soit la position de la source. Mais on peut très bien imaginer utiliser d'autres choses plus complexes comme ce qu'on appelle de la reproduction de champs sonores. Donc il y a des techniques qui s'appellent ambisonics ou wave field synthesis. Et quand on utilise ça avec un certain nombre de haut-parleurs, en général un grand nombre de haut-parleurs, on arrive à reproduire un champ sonore sur une zone entière. Là, en l'occurrence, avec le VBAP, on ne peut pas faire ça. Donc ce qu'on doit faire, c'est on reproduit le champ sonore à la position de l'utilisateur. Le problème avec Immersia, ou la difficulté, c'est que l'utilisateur peut se déplacer dans Immersia. Donc comme on connaît sa position, on simule un système de haut-parleur qui se déplace, en fait, plutôt que de simuler le sujet qui se déplace. On peut aussi imaginer utiliser des techniques au casque, qu'on appelle des techniques binaurales. Vu qu'on a un suivi très précis de la position des sujets, on peut connaître la position de leurs oreilles. Et donc, du coup, en leur mettant un casque, on peut envoyer directement à leurs oreilles le son qu'aurait dû arriver à leurs oreilles s'ils avaient été dans cette cathédrale ou dans cet espace, dans cette usine, et en simulant le son qui aurait dû arriver à leurs oreilles, ils arrivent à avoir un rendu spatial complet et un très bon rendu des positions et de l'impression d'espace.
Peut-on penser à une démocratisation de ce genre de procédé? Par exemple, on a bien vu avec les home cinéma avec du 5.1, est-ce qu'on peut penser qu'un jour on aura ce genre de spatialisation du son devant notre télé par exemple?
Alors ça existe déjà. Il y a le 5.1 entre autres, il y a des systèmes qui sont à l'étude qui utilisent plus de haut-parleurs. Alors, le problème de plus de haut-parleurs, c'est que c'est difficile à caser dans un salon. Il y a des systèmes qui aussi réduisent le nombre de haut-parleurs, mais conservent un rendu similaire. On appelle ça des speaker bars en général. On trouve beaucoup ça dans les home cinémas. Et on utilise aussi des techniques de binaural ou la version sur haut-parleur du binaural qu'on appelle du transoral. Et en l'occurrence, les chaînes de télé, les chaînes de radio sont très intéressées en ce moment par ces technologies. Et il y a un certain nombre de projets qui sont développés soit à la BBC en Angleterre, soit en France, à Radio France, à France Télévisions, qui sont vraiment en train en gros développement en ce moment, sur comment faire en sorte que la personne chez elle puisse entendre avec un rendu sonore son spatialisé qui soit excellent. Et comment améliorer ça, entre autres en tenant compte vraiment de l'individu en lui-même, parce que les différences d'une personne à une autre vont faire que le rendu sonore peut être différent. Et donc du coup, comment réussir à capter toutes les informations concernant l'individu qui est en train d'écouter pour qu'il ait un rendu optimal qui soit optimiser vraiment pour lui.
Et du coup, comment on peut réaliser ce genre de personnalisation du son? Il y a des programmes à développer? Vous avez déjà des programmes qui ont été développés à ce sujet?
Alors, il y a plusieurs entreprises qui travaillent là-dessus, ou des laboratoires de recherche, et en fait, qui vont utiliser différents systèmes de capture. Alors, il y a maintenant des scanners 3D. On a des imprimantes 3D, on a aussi des scanners 3D qui vont essayer de scanner toute la tête de la personne, et à partir de ça, on va pouvoir synthétiser ces caractéristiques qu'on appelle, en binaural, on appelle ça head-related transfer function. C'est les trajets acoustiques d'une onde sonore jusqu'aux oreilles des gens. Et donc on peut utiliser un scanner 3D, on peut aussi utiliser une webcam par exemple, on peut utiliser différents outils comme ça, on peut essayer avec la Kinect de Microsoft. Alors pour l'instant, c'est des systèmes qui sont en cours de développement. Il y en a quelques-uns qui doivent exister, c'est à confirmer. Il y en a quelques-uns qui doivent exister déjà, mais c'est vraiment au début du développement de toutes ces choses-là.
Tout à l'heure, vous avez parlé du système binaural pour l'écoute au casque. En quoi ça consiste? Est-ce différent de mono, stéréo, comme on connaît d'habitude?
Alors, on n'utilise que deux canaux pour le binaural. Mais dans la réalité, dans la vie de tous les jours, pour entendre dans l'espace, pour entendre les sources qui peuvent se situer devant, derrière, sur le côté, on n'a que deux oreilles. Et donc du coup, l'idée du binaural, c'est d'utiliser un casque et d'envoyer directement aux oreilles exactement le son qu'on aurait entendu si on se baladait dans la rue, par exemple. Et donc pour simuler ça, en fait, le son, quand il va d'une source sonore jusqu'à nos oreilles, il va traverser l'air. Et puis ensuite, il va se réfléchir sur notre tête, il va tourner autour de notre tête, il va être réfléchi sur nos épaules et sur aussi d'autres objets. Et donc, du coup, on va simuler ce trajet acoustique pour pouvoir reproduire cette impression d'espace. Et du coup, c'est ça qu'on appelle le binaural. C'est la reproduction au casque de scènes, soit enregistrées, soit synthétisées. Alors, pour faire de la synthèse, on obtient d'abord des réponses, ce qu'on appelle des réponses impulsionnelles. C'est des filtres qui vont pouvoir définir le trajet acoustique d'une source jusqu'à nos oreilles. Et on peut aussi faire de la captation naturelle en binaural. Donc pour ça, on va utiliser une tête, donc soit une tête artificielle, qui est une tête de mannequin typiquement, dans laquelle on met des micros, soit ça peut être la tête de l'un d'entre nous, ça peut être votre tête, ça peut être ma tête, et on peut glisser des micros à l'intérieur, des tout petits micros. Et vu que ces micros enregistrent directement le son qu'on entend, quand on réécoute au casque, on a la même impression sonore que quand on était dans la salle à la base.
C'est ainsi que s'achève le Labomatique. Alors peut-être qu'un jour, qui sait, on écoutera Radio Campus en binaural tout en prenant notre déjeuner dans notre cuisine virtuelle. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur radiocampusrennes.fr. En bonus, voici un extrait d'une création sonore réalisée grâce aux Acoustic Laptops du Centre d'Art du Bon Accueil lors de la journée Sciences et Musique au Diapason. Ces ordinateurs faits main, composés de petits objets du quotidien, permettaient à l'aide d'une pédale de boucle de créer des ambiances sonores originales. Salut à tous et à la prochaine. Thank you.
Club, the 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 Club